Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais profiter d'avoir la parole pour faire une petite annonce et vous encourager à réserver la date du 12 avril pour le culte, parce que ce sera un culte spécial qui sera tourné vers la mission, un culte qui sera différent de ce qu'on fait d'habitude, qu'on est en train de préparer avec l'équipe mission. Et il y aura plein de choses différentes, il y aura des témoignages, il y aura des vidéos, et il y aura même des stands avant et après le culte. Donc n'oubliez pas de réserver cette date. Et puis comme Sylvie nous l'a dit tout à l'heure, c'est déjà la dernière semaine de notre campagne, l'Église, un projet de Dieu pour le monde. Et c'est déjà le dernier dimanche où nous allons parler de ce sujet. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ce thème sous différentes catégories, je dirais. Dans un premier temps, nous avons vu que l'Église était appelée à être en union au Christ et puis en union entre nous, que nous sommes appelés à être un corps uni. Et puis, nous avons aussi, dans nos discussions, dans les groupes de maison, dans nos méditations quotidiennes, nous en avons aussi déduit à un moment donné que qui dit union ne dit pas forcément uniformité, et que nous avions chacun notre singularité, notre particularité, que nous n'avions pas tous la même langue, que nous n'avions pas tous la même culture, que nous ne venions pas tous des mêmes origines, et que nous avions aussi chacun des dons différents. Et justement, c'est la diversité dans l'unité du corps de Christ que nous avons vu aussi le dernier dimanche et où nous avons vu que cette union, cette communion devenait aussi, lorsque nous mettons tous ensemble nos dons en commun, eh bien, collaboration. Mais cette collaboration, elle veut aussi devenir concrète, pratique. Et je dirais que c'est quelque part un petit peu l'objet de ce dernier dimanche et de cette semaine qui s'ouvre pour nous dans ce thème. Et je vous invite du coup à lire le texte qu'on nous propose aujourd'hui en acte 11. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le temps de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Radio Blabla, nous sommes le 22 mars 2027. Flash Info, voici la principale information de ce jour. Ça fait maintenant un an que la guerre au Moyen-Orient a lieu. Et depuis les mois qui se sont écoulés, l'escalade dans le conflit n'a cessé de progresser et de s'étendre au monde entier. Si bien que maintenant, depuis plusieurs mois, pour des raisons de menaces terroristes, eh bien, les autorités françaises n'ont pas eu le choix que de prendre des mesures drastiques, parfois contestées, mais nécessaires. Parmi ces mesures, eh bien, nous trouvons la fermeture de tous les lieux de culte, quels qu'ils soient, pour éviter que de nouveaux drames aient lieu et pour préserver tous les croyants de toutes les religions. Mais voilà un grand défi qui s'annonce pour les églises. Elles ont déjà dû faire face à des fermetures lors de la pandémie, lors du Covid-19, mais là, elles se retrouvent devant une fermeture qui déjà dure depuis 4 mois et qui risque encore de s'étendre car le conflit ne cesse de se prolonger. Alors voilà la question qui se pose en cette année 2027. L'Église va-t-elle réussir à s'adapter, à se réinventer face à ce nouveau défi qui est devant elle, ou bien est-ce la crise de trop qui va la terrasser, terrasser le christianisme, alors que cela ne fait que depuis quelques temps, quelques années, que certaines de ces branches est en train de renaître. Vous me direz, oui, c'est bien, c'est une belle fiction, mais c'est pas la réalité, heureusement, vous me direz. Quoique dans un an, on ne sait pas. Mais j'ai pris cette fiction parce qu'elle se rapproche beaucoup de notre texte d'Acte 11. Et dans ce texte de Acte 11, nous voyons que, eh bien, après la mort des premiers martyrs, et notamment d'Étienne, eh bien, les disciples ont dû se disperser. Ils ont dû fuir Jérusalem. Et ils ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Ils ont parcouru 400 kilomètres jusqu'à Chypre et même jusqu'à 800 kilomètres pour aller jusqu'à Antioche. Et pour ça, eh bien, ils n'avaient probablement pas de plan missionnaire. Ils n'avaient pas de budget et ils n'avaient pas non plus de comité d'évangélisation ou de mission. Comme tous les chrétiens d'ailleurs qui aujourd'hui sont déplacés dans le monde, et ça dure déjà depuis un certain temps, que ce soit en Afrique ou que ce soit maintenant aussi au Proche-Orient, on pense par exemple au Liban. En 2014 par exemple, quand Daesh a envahi Mossoul, eh bien des milliers de chrétiens ont fui. Ces chrétiens ont tout perdu. Ils ont été dispersés, comme dans Acte 11. Et ils se retrouvent dans des camps de réfugiés, au Kurdistan, par exemple. Et dans ces camps, tout d'un coup, quelque chose d'inattendu se produit. Il y a des croyants qui commencent à se réunir ensemble et à prier. Ils aident les familles, quelle que soit leur origine, y compris les familles musulmanes. Ils partagent l'Évangile. Alors, des musulmans déplacés demandent « Mais pourquoi est-ce que vous faites cela ?» Et ils répondent « Parce que Jésus nous a aimés. » Des dizaines de personnes se tournent alors vers le Christ. Des groupes de maisons naissent. Une église apparaît, se forme dans un camp de réfugiés. L'exemple des chrétiens de ces camps en Kurdistan ou bien des premiers disciples en Acte 11, eh bien, nous montre que l'Église en mouvement, qui est le thème de notre dimanche, n'a pas besoin d'une carte détaillée. Elle n'a pas besoin d'une stratégie non plus élaborée. Non, elle a juste besoin d'une boussole. Une boussole avec Christ au centre, l'Esprit-Saint comme guide et la mission comme direction. Dans l'Ancien Testament, Dieu habite d'abord dans une tente mobile, une tente souple, adaptable. Dieu est nomade et il accompagne le peuple d'Israël dans une nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Ce n'est que bien plus tard qu'un temple va être construit sous Salomon où Dieu va y résider. Et les disciples qui vont former l'église d'Antioche en Acte 11, eh bien, ressemblent beaucoup aux Juifs de l'Exode. Ils suivent la nuée. Ils ne demandent pas à Dieu, eh bien, de suivre leurs propres agendas à eux. Attends, Seigneur, c'est pas le moment encore, attends, je suis pas prêt à partir. Non. C'est Dieu qui leur dit de partir. C'est Dieu qui les envoie. Et c'est eux, c'est lui qui leur dit où et quand rester. Dans ce passage donc de Acte 11, c'est une véritable crise qui propulse littéralement les disciples hors de Jérusalem. Et ces disciples, eh bien, ils sont allés bien au-delà de la périphérie de Jérusalem. Et nous aussi, dans nos vies, nous ne sommes pas épargnés par les crises, que ce soit dans nos vies individuelles ou que ce soit des fois dans nos églises aussi. Les crises ou les épreuves font partie de la vie humaine, mais elles peuvent nous pousser d'un côté plus loin en avant ou bien nous terrasser. Lorsqu'une crise survient, quelle est notre réaction? Est-ce que, par exemple, nous fuyons parce que nous avons peur ou bien parce que nous refusons d'accueillir ce qui est en train de nous arriver, par exemple, comme le prophète Jonas? Est-ce que nous faisons le mort en attendant que l'orage passe, que la situation s'améliore, comme par exemple les disciples qui se cachaient lorsque Jésus a été crucifié sur la croix et qu'il est mort? Ou bien choisissons-nous de nous servir de cette épreuve pour renforcer, renouveler notre attachement à Dieu et à en ressortir plus fort? Les premiers disciples avaient une foi naissante et ils auraient très bien pu être déstabilisés par la persécution. Ils auraient très bien pu renoncer à leur foi, être tétanisés à cause de ce qui leur arrivait. Mais non, la persécution a été pour eux une crise qui les a mis en mouvement, qui les a propulsés en avant, parce qu'ils étaient forts de cette conviction. Jésus nous a aimés, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, et nous voulons le témoigner à d'autres. Si nous voulons être en mouvement dans nos vies, nous sommes appelés à ne pas attendre forcément des circonstances favorables dans nos vies pour cela. Nous ne sommes pas appelés à attendre des circonstances favorables pour bouger, mais compter sur la fidélité de Dieu. Et il est rare que dans notre vie, tous les voyants soient ouverts, que toutes les planètes soient alignées, comme on dit. Non, ça n'arrive pas souvent, parce qu'il y a toujours des éléments qui ne vont pas. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas avancer. Être vivant, c'est prendre des risques. C'est avancer même quand on ne contrôle pas tout, même quand on n'a pas toutes les cartes en main, même quand il y a une part d'inconnu. Dans la dernière croisade d'Indiana Jones, les fans se rappelleront de cela, nous retrouvons Indiana Jones qui est coincé dans le temple perdu. Il est à la recherche du Saint Graal et il se retrouve face à tout un tas qu'il doit surmonter pour trouver le Saint Graal et pour se diriger, il a une carte, un plan où on lui a donné un certain nombre d'indications mais qui sont aussi en même temps un peu mystérieuses et qui ne sont pas forcément très claires. Et puis il arrive à un moment donné où il se retrouve coincé parce qu'il y a un fossé impressionnant, infranchissable, avec un précipice énorme devant lui. Et il ne sait pas quoi faire. Et la carte, le plan qu'il a, lui dit qu'il faut faire confiance. Faire confiance, oui, mais s'il met le pied, eh bien, il va tomber. Alors, il réfléchit, il prend sur lui, et puis il fait ce que peut-être personne n'oserait faire, et il ose mettre le premier pied dans le vide, au risque de tomber dans le précipice. Et là, au moment où il met le pied dans le précipice, eh bien, il découvre que, à quelques centimètres de là, il y a un rebord, et que c'est un rebord qui cache un pont qui va lui permettre de franchir l'infranchissable. Et justement, l'Église, dans le projet de Dieu pour le monde, est aussi parfois face à des fossés qui peuvent paraître infranchissables et qui peuvent la séparer des hommes. Et elle ne sait pas toujours comment s'y prendre pour les rejoindre. Nous ne savons pas toujours comment nous y prendre pour rejoindre notre collègue de travail, notre voisin ou notre ami qui n'est pas chrétien. Mais Dieu a un plan. Il a un projet pour l'Église, pour nous, pour chacun de nous. Mais pour rentrer dedans, eh bien, il faut oser mettre le pied dans le vide. Prendre le pari fou de la foi pour voir, eh bien, le pont que Dieu a choisi pour nous afin de nous permettre de rejoindre nos contemporains. Et justement, dans ce passage, au verset 20, eh bien, certains disciples décident de faire alors un énorme saut, on va dire, dans le vide. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que certains disciples choisissent de s'adresser à des non-juifs. C'est un moment historique. Parce que jusqu'ici, et le texte nous le dit, avant, l'évangile n'était annoncé qu'aux juifs. Mais ici, il est annoncé à des non-juifs. Pour ces disciples qui annoncent l'évangile de cette façon, eh bien, c'est un vrai défi qu'ils ont choisi de relever. Oser sortir de leur zone de confort. Antioche naît ainsi le jour où quelqu'un ose parler à quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Le véritable amour n'a pas de frontières. Il ne se cantonne pas à une nation, à une ethnie, à une tribu, à une catégorie de personnes. Non, il traverse toutes les frontières parce que l'amour de Christ pour l'humanité a fait voler en éclats toutes les barrières sociales et culturelles. Une église en mouvement, c'est donc une église qui ose aller vers ceux qui ne lui ressemblent pas, en leur parlant un langage compréhensible et en s'adaptant à eux sans se renier. Et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que face à celui qui est différent, qui ne nous ressemble pas, qui ne me ressemble pas, eh bien, je peux avoir peur de me dévoiler. Et puis, lorsqu'il y a des crises aussi qui surviennent dans nos vies individuelles ou collectives, eh bien, nous avons aussi tendance parfois à nous replier sur nous-mêmes pour nous protéger, par exemple. Comme une communauté peut aussi être appelée à tenter de se replier sur son identité, d'abord pour se protéger, mais aussi par méfiance, ou je dirais même par méconnaissance. Parfois aussi, nous pouvons oser ne pas aller vers les autres parce que nous considérons que nous ne sommes pas des apologètes, des théologiens, des spécialistes de la foi. Nous avons peur de ne pas savoir quoi répondre à celui qui ne nous ressemble pas, qui est différent de nous. Mais les premiers disciples de Actes 11, eh bien, ils ne se sont pas posés ce genre de questions. Ils ont simplement témoigné de leur foi et de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Et nous sommes appelés au même mouvement. Dieu n'a pas besoin de spécialistes, ou je dirais pas seulement, bien sûr, il en a besoin, mais il a besoin d'abord et avant tout d'hommes et de femmes qui lui sont attachés profondément et qui désirent parler de lui de façon sincère, authentique et spontanée. Ainsi, nous pouvons chacun, toi, moi, être dans notre singularité, eh bien, un passeur de vie. Justement, un passeur, celui qui permet de passer d'un côté de la frontière à l'autre côté de la frontière. Un passeur de vie pour que chacun puisse découvrir la vie du Christ. Notons que les disciples n'ont pas attendu que les autres viennent à eux. Ils étaient à l'image de Jésus. Alors oui, c'est vrai, Jésus, il avait des gens qui venaient à lui. Mais il n'était pas toujours passif dans son attitude, non. Il allait lui-même vers les autres. Il parcourait les villes et les villages. Il franchissait des frontières en allant même des fois dans des zones qui n'étaient pas dans le territoire d'Israël, par exemple en Samarie. Il allait, il prêchait l'évangile, il guérissait, il délivrait. Il annonçait, il servait, il aimait. Attendre que les autres viennent à nous, c'est peut-être parfois une attitude confortable que moi le premier, eh bien, nous pouvons trop facilement avoir tendance à adopter. Est-ce que nous n'avons jamais prié, par exemple, « Seigneur, envoie-moi quelqu'un aujourd'hui pour que je lui parle de toi ?» C'est une prière qui peut-être paraître un peu facile. Les premiers disciples, eux, ne se sont pas cachés, en tout cas, derrière leur timidité. Ils se sont mis aussi en mouvement parce qu'ils sont allés vers les autres. Une bougie, par exemple, elle ne sert à rien si elle est en plein jour, là où il y a le soleil. Mais si on la met dans un endroit où il y a le noir, eh bien, elle est claire. Et là, elle est utile. Elle apporte la chaleur, la lumière, le réconfort dont on a besoin dans le noir. Eh bien, le message de l'Évangile, c'est pareil. Nous sommes appelés à le diffuser non pas entre croyants, mais à le diffuser là où on ne le voit pas encore, là où on ne le connaît pas encore. Poursuivons notre récit. Au verset 21, nous lisons que la main du Seigneur était avec eux et que de nombreuses conversions ont lieu. Accompagne ceux qui bougent, ceux qui avancent par la foi, ceux qui obéissent. Dieu accompagne Dieu a propulsé hors de Jérusalem, mais ces croyants, ils auraient très bien pu faire le choix, eh bien, d'aller dans une petite ville aux alentours, de se poser là, et puis de ne pas faire de vagues et d'attendre que la vague de persécution passe, et ensuite retourner à Jérusalem. Eh bien, non. Ils n'ont pas choisi cette solution-là. Ils n'ont pas choisi de s'établir dans la tranquillité. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir dans une église qui est immobile, qui est statique, dans des croyants qui sont immobiles, qui sont statiques. Et dans Acte 11, l'Esprit agit parce que l'église avance. Parce que l'église n'est pas un ornement pour les réunions des églises, mais une église en mouvement, c'est une église où la colombe de l'Esprit, peut trouver un espace où voler. Beaucoup de croyants et d'églises craignent l'inconnu. Ils ont peur de l'échec. Ils ont peur du changement. Mais Dieu nous dit, ne crains pas. Je suis avec toi et voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors que la peur aurait pu pousser les disciples à rechercher le confort, la facilité, ils se sont mis en mouvement. Ceci doit nous rappeler que le grand ennemi du mouvement, ça n'est pas l'opposition, mais c'est la routine. Nous voulons que nos églises soient remplies, qu'il y ait beaucoup de baptêmes, qu'elle soit tellement pleine qu'il faut chercher un local ailleurs parce qu'il faut pouvoir arriver à permettre à tout le monde de venir. Mais des fois, en même temps, ces églises vivent dans la routine et dans l'entre-soi. Nous pensons avoir, des fois, en tant que croyants, je ne parle pas forcément de notre église, mais les chrétiens en général pensent avoir une église dynamique. Mais parce que tout simplement, il y a beaucoup d'activités dans cette église locale-là, et du coup, nous pensons que nous sommes dynamiques, efficaces, etc. Mais l'activisme, eh bien, avec l'activisme, nous pouvons perdre des fois aussi l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la mission. La mission, la vocation que Dieu nous a confiée. Du coup, nous pouvons en dire que une église mature, eh bien, c'est une église qui a d'abord des racines solides. Pourquoi ? Eh bien, parce que elle est enracinée profondément dans la foi et aussi dans une certaine stabilité au niveau de son organisation. Et c'est aussi une église en mouvement parce qu'elle répond à l'appel, à la vocation missionnaire que Dieu lui a accordée. Un peu plus loin maintenant, au verset 22, nous voyons que l'église de Jérusalem envoie Barnabas pour voir ce qui se passe à Antioche. Alors Barnabas arrive, et que fait-il ? Eh bien, il commence par faire un audit pour voir si le message de l'Évangile est bien conforme à ce qu'il doit être. Il évalue les risques pour voir quels sont les dangers de pouvoir parler ainsi à des non-juifs de l'Évangile. Non, Barnabas n'a pas fait ça, bien évidemment, et heureusement. Il commence d'abord par regarder quoi ? La grâce. Là où certains auraient vu, dans cette situation, des premiers disciples qui annoncent en particulier à des non-juifs l'Évangile, certains auraient pu y voir du danger, d'autres auraient pu y voir des problèmes, Eh bien, Barnabas, lui, il voit la grâce. Le mouvement que nous sommes appelés à faire dans nos vies n'est pas seulement un mouvement comme ça avec nos jambes, mais c'est aussi peut-être d'abord un regard, un mouvement au niveau de notre regard qui est appelé, et particulièrement en tant qu'Église, à être d'abord spirituel et pas seulement institutionnel. Dans nos vies individuelles ou communautaires, nous pouvons facilement être envahis par les doutes, par les peurs, par les angoisses, par les inquiétudes. Et dans ces cas-là, notre regard est obscurci et nous avons du mal à voir la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons alors besoin de quelqu'un qui vient et qui nous aide à modifier notre regard pour nous faire découvrir ou redécouvrir la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, au sein même de nos communautés, il y a peut-être au sein même des églises de notre union, des communautés qui sont en pleine crise, en plein doute. Alors, nous pouvons être pour ces églises eh bien, des Barnabas et nous pouvons les aider à voir la grâce de Dieu au travers des circonstances qu'elles vivent. Et dans nos vies personnelles, avec les gens de notre entourage, les gens de notre famille, nos amis, nos collègues ou les personnes que nous croisons simplement sur notre chemin, nous pouvons aussi être des Barnabas. Nous pouvons les aider aussi à découvrir ou à redécouvrir la grâce de Dieu au travers des circonstances qu'elles vivent. Et parfois, ça peut être des circonstances douloureuses, dramatiques, compliquées, difficiles. Mais même dans ces circonstances-là, si notre regard est aiguisé, si nous savons regarder, nous trouverons toujours la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un et dans nos vies aussi. Un autre aspect, c'est lorsque des choses inhabituelles et positives se passent autour de nous, ou bien dans la vie d'autres croyants ou d'autres églises, nous pouvons facilement avoir tendance à critiquer, à remettre ce qui est fait au nom de l'institution, des habitudes, de l'histoire. Nous avons parfois du mal à tout simplement encourager les autres et à les soutenir dans leur ministère, parce que peut-être, eh bien, il y a en nous une pointe de jalousie. C'est pourtant ce que Barnabas a fait. Il est un modèle à suivre pour nous. Si je peux reprendre une image avec ce verset, je dirais que Barnabas arrive à Antioche. Il voit que Dieu a déjà fait pousser quelque chose. La vigne est vivante. Les fruits sont là. Barnabas ne vient pas à Antioche pour planter. Il ne vient pas pour arracher, non. Il reconnaît la grâce à l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à ramasser ce que Dieu a fait mûrir. Il encourage, il rassemble, il consolide. Et puis, à un moment donné, il comprend que la récolte, eh bien, elle est trop grande pour lui. Alors, il va chercher Saul à Tarse. Pourquoi? Pas pour lui déléguer son travail. Non, pour lui dire, viens avec moi. On va ramasser ensemble et on va porter ensemble le panier parce que pour moi, il est trop lourd. Ainsi, une église en mouvement, elle reconnaît déjà l'œuvre qui a été commencée. Elle s'en réjouit, elle rassemble les fruits et elle sait s'entourer aussi quand la moisson grandit. Après avoir vu donc la grâce de Dieu à l'œuvre, Barnabas donc va chercher Saul à Tarse en évaluant la situation. Et avec lui, ils vont enseigner pendant un an à Antioche. Plus tard, l'église d'Antioche va être celle qui va envoyer Paul et Barnabas, Saul devenu Paul, et Barnabas dans le premier voyage missionnaire qui nous sera raconté à partir d'Acte 13. Et nous voyons aussi que à la fin de ce passage, il nous est dit que l'église les envoie aussi pour porter des dons aux croyants et aux églises qui ont des besoins financiers à cause de la famine qui sévit sous Claude. Et ça nous fait penser qu'une église est appelée en mouvement. C'est une église qui ne peut pas compter que sur ses individualités. Comme l'équipe de foot, n'est-ce pas, Dadi, ne saurait vivre selon ses stars seulement. Mais une église, elle vit de façon unie, collective, collaborative. Il y a des spécialistes comme Paul et Barnabas. Il y a dans les églises des pasteurs, des évangélistes, etc. Mais il y a aussi chacun de nous dans nos églises. Nous sommes là aussi pour œuvrer avec eux. Et ensemble, tous ensemble, nous formons cette église en mouvement. Et quand l'église d'Antioche a envoyé Paul et Barnabas en mission, eh bien l'église, elle était derrière pour les soutenir financièrement, pour prier pour eux et pour leur envoyer aussi des fois du renfort quand il y avait besoin sur le terrain. L'exemple de Paul et Barnabas nous montre ainsi qu'une église en mouvement est appelée à former des disciples qui pourront aussi à leur tour se mettre en marche et témoigner de la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, elle se transmet. La foi se transmet. Nous sommes appelés à faire des disciples. Et dans le passage que Sylvie nous a donné en Matthieu 28 tout à l'heure, Jésus nous appelle à faire des disciples justement. Une église en mouvement, c'est une église qui donne. C'est une église qui envoie. C'est une église qui libère. Elle ne vit pas repliée sur elle. Elle ne vit pas toujours avec les mêmes personnes. Ainsi, elle accomplit finalement ce que veut vraiment dire son nom, Ecclésia, appelée hors d'eux. Dans les églises locales, beaucoup de programmes sont faits pour la vie interne à la communauté, mais beaucoup moins pour former des disciples et pour avoir des projets à l'extérieur. Or, un vélo ne tient debout que s'il avance. Si un vélo est immobile, si nous sommes sur un vélo immobile, nous perdons l'équilibre. Eh bien, une église immobile finit toujours par perdre l'équilibre. Par contre, une église en mouvement, même si elle avance lentement, eh bien, elle est en mouvement. Et les églises libres, justement, comme la nôtre, par exemple, elles ne peuvent pas devenir statiques. Elles sont nées d'un mouvement et elles sont faites pour avancer, pour servir, pour annoncer. Alors c'est à nous de trouver à Cannes comment rester en mouvement. En conclusion, l'église d'Antioche, donc, vous l'avez vu, elle n'est pas née d'un plan stratégique, mais elle est née d'un mouvement de l'esprit dans des croyants ordinaires. Ce texte d'Actes 11 nous a donc rappelé différentes choses. Dieu utilise des croyants ordinaires avec leur singularité. Le mouvement naît souvent dans l'inattendu. L'Église avance quand elle ose sortir. La main du Seigneur accompagne ceux qui bougent. La grâce est visible pour qui sait la regarder. Et le mouvement conduit toujours à la mission. L'Église en mouvement, ça n'est donc pas une église qui est agitée, mais c'est une église qui est envoyée, qui est guidée, qui est unie, qui est centrée sur Christ, ouverte au monde, sensible à la grâce, prête à franchir des frontières et collaborative. Alors, que Dieu nous donne de savoir toujours rester en mouvement ici à Cannes.